face à l'Empire dit libéral. À partir des années 1860, sous l'Empire dit libéral, la surveillance policière se desserre. Louise Michel participe à cet élan citoyen qui élargit les brèches de l'ordre impérial, notamment à travers la presse, révélant ainsi son féminisme et sa détermination, confinant à l'oubli de soi. Celle qu'il croit faible. Lettre au Figaro, inédit. En décembre 1861, Louise Michel s'adresse au Figaro, répliquant à un chroniqueur se moquant des femmes qui ont des prétentions littéraires. Cette lettre, s'inscrivant pourtant dans le registre de la controverse intellectuelle parisienne, ne sera pas publiée par ce journal. Si Louise Michel, alors inconnue, n'est pas ici à la pointe du féminisme de son temps, elle a cependant une pleine conscience de la construction sociale d'une domination masculine donnée comme naturelle. Malgré des propos finalement assez mesurés, cette lettre est considérée par Louise Michel comme suffisamment subversive pour être assumée et publiée dans plusieurs journaux, La Justice, de Clémenceau, entre autres, dès son retour d'exil. Source, La Justice, 13 août 1880. Voici, d'après Le Citoyen, une lettre que Louise Michel écrivait en 1861 en réponse à un article du Figaro signé Junius, pseudonyme qui cachait trois écrivains de talent, Castagnari, Alphonse Duchesne et Alfred Delvaux, dans lequel on maltraitait fort les femmes de lettres, et surtout celles qui s'occupaient déjà de leur propre émancipation. On sent dans cette lettre, écrite il y a 20 ans, la femme énergique, déjà tout entière dévouée aux idées de justice et de liberté. J'ai toujours vu qu'un journal, quel qu'il soit, ayant attaqué une classe quelconque de la société, se faisait un devoir d'insérer les réponses de ses adversaires. J'aime à croire que le Figaro agit ainsi. Si M. Junius parle au nom des hommes de lettres, en général, on peut bien répondre au nom des femmes de lettres. En bonne conscience, les droits de Catos et de Madelon sont égaux à ceux de Vadius. Allons, messieurs, un peu de courtoisie. Traitez, si vous voulez, de cabotine toutes les femmes qui se sentent assez de cœur pour le faire palpiter dans un livre sur la science, que sais-je, moi, dans une action quelconque qui les met au jour, comme Esther, Cornélie, Jeanne d'Arc, ces illustres cabotines de la grande scène du monde. Tandis que, suivant M. Junius, parlant au nom de tous les littérateurs, la femme ne doit être qu'un parfum qui s'évapore, pour disparaître aussitôt, sans doute, afin qu'on ait la possibilité d'en changer plus souvent, car ce qui est évaporé ne gêne pas. C'est plus oriental, et surtout plus commode. Mais vous n'avez donc ni mère, ni sœur. Du reste, qu'importe, écrivez ce que vous voudrez, mais ne parlez pas tout seul, comme ceux qui craignent d'être réfutés. Vous avez raison, monsieur Junius. Une femme auteur offre sa vie en pâture à la foule, car de son livre, elle pourrait dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et qu'en fait la foule ? Vous le savez, mais de temps à autre, un malheureux abandonné de tous ouvre ce livre. Il se croit moins misérable. N'est-ce pas là une sublime récompense pour toutes les douleurs de cette femme ? Il y a vraiment de singulières circonstances dans la vie. Lorsqu'on m'a montré la lettre de M. Junius, je tenais à la main le premier numéro de Sœurs de Charité, nouveau journal fondé par Madame Adèle Esquiros. Je pensais aux grandes choses qu'on veut entreprendre sous cet humble nom, symbole de charité universelle, et je me disais, oui, il est beau d'être la voix qui console, la main qui relève, le cri qui monte sans cesse de la terre au ciel, disant « Justice et vérité ». Et je me sentais heureuse de cette joie qu'on éprouve quand le but est beau, la route périlleuse et qu'on a confiance en sa cause. Je sentais que l'âme du poète, homme ou femme, est bien réellement pour la foule la manne du désert et que cette âme doit vivre dans chaque page. Monsieur Junius s'est chargé de me répondre. Cette incarnation de l'auteur dans son livre, c'est tout bonnement une exhibition. Oui, il appelle cela une exhibition. Pourquoi pas, après tout, si cette exhibition ne montre que des choses nobles et dignes. C'est sans doute un tour de phrase particulier à Monsieur Junius, et je connais du reste un vieux professeur qui disait, en parlant des visions, que le bon Dieu faisait une exhibition d'anges. Écoutez, bas bleus, mes sœurs, sacrifions notre jeunesse, notre temps, notre bonheur, ne reculant devant n'importe quelle épreuve, dans l'espérance de faire un peu de bien. Oui, travaillons avec courage. Quelques éclaboussures qu'on nous jette en passant sont bien peu devant l'œuvre que nous avons à accomplir, nous autres femmes qui savons mourir et consoler et pardonner. Je suis fâchée pour Monsieur Junius qu'il n'éprouve qu'une âpre soif de renommée, comme je suis fâchée qu'il n'ait vu au théâtre, dans ces instants où le vertige de l'art s'empare des spectateurs, où en sortant on baisse la tête de peur de heurter les astres, je suis fâchée, dis-je, que Monsieur Junius n'ait vu là qu'un moyen de rêver au sérail, ce qui, du reste, s'accorde avec ses idées sur les femmes. Oui, je le répète, je regrette sincèrement qu'une semblable profession de foi soit faite au nom de la littérature masculine. Pour moi, bas bleu obscur, je n'éprouve et n'ai jamais vu éprouver aux autres femmes auteurs que l'âpre soif d'être utile. Monsieur Vadius, je voulais dire Junius, parle des livres sur l'amour. Je n'en ai là que deux portant ce titre. L'un fait par un homme et par un grand homme, Michelet, l'autre par une femme, bien modeste, avec une belle intelligence, Madame Adèle Esquiros. Michelet, le grand homme, fait de la femme une idole, et une pauvre idole, car il faut que son mari, un assez piètre sire, la crée à son image. Elle se réjouit naïvement d'avoir un jardin et une maison à elle et se laisse soigner, occupation sans contredit bien utile à sa famille et à la société. Madame Esquiros fait de la femme l'ange de l'abnégation et de l'espérance. Pour elle, il n'existe pas de néant. C'est la charité infinie, le dévouement sans borne, l'intelligence pure et vive. Cette femme n'est point l'éternel malade. Elle ne s'évapore point. C'est un être humain et divin à la fois, accomplissant dans l'ombre ou dans la lumière sa mission de sacrifice. Puisque nous en étions au chapitre des regrets, les hommes regrettent, dit Monsieur Junius, d'avoir appris à écrire aux femmes. Moi, je regrette que ceux qui se croient forts attaquent celles qu'ils croient faibles. Je désirerais, je l'avoue, un peu plus de bravoure dans la littérature. Attaquez qui vous voudrez, messieurs, mais ouvertement, avec l'épée à la bonne heure, mais à bas le poignard et les masques. Assez de fiel. Je ne veux pas terminer sans dire à Monsieur Junius qu'il m'a rappelé, en nommant Cato et Madelon, les plus doux souvenirs de mon enfance. Le temps où, assise aux pieds de mon grand-père, je lui relisais avec un rire si joyeux les admirables discours de ce bon Monsieur Trissotin, qui se croyait de bonne foi un si grand homme. Paris, le 7 décembre 1861, Louise Michel.